Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage, deux destinations, en France, au bout du monde, au bout du jardin ou de l'autre côté de la planète, c'est juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, à 17h, nous partirons pour une contrée au paysage étincelant. J'adore ce pays, c'est comme un immense jardin. Goethe en disait qu'il était le colossal et le bien ordonné mêlé. C'est le pays des lacs sublimes, des paysages impeccables, des Alpes lumineuses. Nous irons en Suisse. J'adore la Suisse. Et c'est tout près et c'est complètement ailleurs. Et en première heure, tout de suite, une destination française exotique à plus de 6000 km de chez nous. C'est tout un archipel, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, Grande-Terre, Basse-Terre. C'est Christophe Colomb qui a baptisé cet endroit du nom de Guadeloupe lorsqu'il la découvre en 1493. Il rendait ainsi hommage à la Vierge protectrice des navigateurs qui s'appelle, ou s'appelait surtout, Notre-Dame de Guadalupe, en Espagne. Un petit cassard avait dit qu'on allait voyager. Et bien sûr, pour faire tous ces kilomètres, il faut de bons camarades. Avec moi, Nathalie Hellal, bonjour.
Bonjour à tous.
Nathalie Hellal qui est auteure, grande voyageuse. La plus gourmande d'entre nous, c'est Emmanuelle Jarry. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Gourmande et elle a la ligne, donc elle nous énerve. Et puis Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, bonjour.
Bonjour Philippe, partons vite.
Ben oui, le plus vite possible. D'ailleurs, si on précise un petit peu la Guadeloupe, donc on sait que c'est un archipel, on sait que c'est à 6000 km.
Plus, 6700.
6700,
ouais, ça fait à peu près du 9 heures d'avion. Il y a des vols tous les jours au départ de Paris. Alors c'est vrai qu'en
tous
ce
les
moment,
jours, en temps normal.
En temps normal. Alors l'accès des Antilles aujourd'hui est possible. Il faut quand même se renseigner un petit peu avant. Il y a quelques vols, on peut se rendre aux Antilles françaises en ce moment.
Ouais. Paysage...
Très vert, il y a énormément de paysages, beaucoup de verdure, mais il y a également de la canne à sucre, des paysages très agricoles et bien sûr du récif corallien, des plages, des mangroves.
Donc
Des eaux turquoises, évidemment.
Un volcan actif.
Un volcan actif, on va en parler tout à l'heure, mais il y a vraiment de quoi ne pas se lasser pendant des semaines.
On parle de la Guadeloupe, donc, dans un tout petit instant. Et Nathalie Hellal, vous avez trouvé, vous, des célébrités là-bas ?
Oui, enfin, la Guadeloupe, c'est surtout une terre de sportifs de haut niveau. Hein. C'est un vrai incubateur de champions. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Alors, honneur aux femmes, d'abord, avec Marie-Josée Pérec, seule athlète française sacrée triple championne olympique, née à Basse-Terre en 1968 et devenue, après les JO d'Atlanta, une légende du sport mondial. Une autre aussi qui est pas mal, c'est une fine mouche, ou plutôt une guêpe, c'était son surnom, Laura Flessel, la double championne olympique.
Oui.
Et oui, 6 fois championne du monde, 1 fois championne d'Europe, enfin 15 fois championne de France, on ne compte plus les distinctions. Et puis je dis fine mouche parce que reconvertie en politique avec succès. Je vous rappelle qu'elle a été brièvement, certes, notre ministre des Sports.
Ah
vous
oui, avez... ça je ne me rappelais pas. Ça.
Ah oui, c'est du gouvernement Philippe, absolument. Bon. Le judoka, Teddy Riner, alors qui est vraiment la fierté de la jeunesse guadeloupéenne, le tennisman Gaël Monfils, qui est né à Paris, mais d'origine guadeloupéenne. Et puis, du côté du ballon rond, on retiendra évidemment Lilian Thuram, hein, qui est né en 72 à Pointe-à-Pitre, l'auteur du deuxième but face à la Croatie en juillet 98, le but qui a qualifié la France pour la finale. Ouais. Alors, il a mis un terme à sa carrière, mais il lutte depuis activement contre toutes les discriminations. Et je n'oublie pas, une autre légende du foot, c'est Marius Trésor, né en 1950 à Sainte-Anne, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps, 65 sélections en équipe de France dès 1971. Et puis aussi, parce que la poésie et la littérature sont une discipline sportive, si je puis dire, Saint John Perse, l'écrivain, le diplomate, né à Pointe-à-Pitre en 1887 et surtout prix Nobel de littérature en 1960.
Très bien, merci beaucoup Nathalie. Emmanuelle Jarry, journaliste spécialisée dans le voyage et la gastronomie, vous avez créé l'émission « C'est meilleur quand c'est bon » sur Internet. Si on parle petit plat, bon, il va y avoir des acras.
Ah oui, des acras à tous les repas, ça
ouais,
c'est sûr.
C'est obligatoire.
Ouais, c'est obligatoire, mais il va y avoir la popote à fruits à pain, le brûle-gueule.
La popote à fruits à pain,
oui,
j'adore.
Le brûle-gueule, les tourments d'amour ou le matété à touloulou. Et en fait, je trouve que les mets sont aussi savoureux à nommer qu'à manger en Guadeloupe.
Ah oui, c'est vrai. Bon, on en reparle tout à l'heure. Après le flash de 17h, je vous emmènerai en Suisse, au cœur de ces Alpes majestueuses, de ces lacs immenses, sans oublier bien sûr les stations de sport d'hiver très chic, hein, Gstaad, Saint-Moritz et autres. Mais dans un instant, nous serons donc en ligne avec un amoureux fou de son île et plus particulièrement de sa ville natale, le Moule, en Guadeloupe. On sera avec Steve Salim. A tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, juste pour le plaisir de s'évader et de tout oublier. Après 17h, nous partirons donc en Suisse. Mais là, tout de suite, nous sommes en Guadeloupe. La Guadeloupe, on l'oublie, mais qui abrite quand même un volcan extrêmement puissant, le volcan actif de la Soufrière, qui est d'ailleurs le point le plus élevé des Antilles, si mes souvenirs sont bons, à plus de 1400 mètres. Là-bas, il lui donne un petit nom affectueux, c'est la Vieille Dame. Mais il faut se méfier, hein, parce que c'est un volcan actif. Cet après-midi, notre guide exceptionnel est un homme très très attaché à son île et il ne la quitterait pour rien au monde. Nous sommes en ligne depuis la Guadeloupe avec Steve Salim, qui est à la tête de l'entreprise Guadeloupe Forever. Déjà, rien que le nom de l'entreprise, on a compris. Une entreprise qui produit et livre des paniers de fruits et de légumes locaux. Bonjour Steve.
Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1, à toute la France et à mes amis aixois aussi, parce que j'ai passé un peu de temps à Aix-en-Provence, et bien entendu à tous les Guadeloupéens.
Ben bien sûr, on les embrasse tous les Guadeloupéens. Il est quelle heure là-bas en Guadeloupe ?
Ben écoutez, il est 10h du matin.
Très bien.
Et donc on a une nuit un peu agitée puisqu'il a plu, on est en vigilance orange ici.
Ouais.
Il y a un peu de vent, mais sinon tout va bien.
Très bien. Alors vous êtes né en Guadeloupe, vous y avez grandi, vos parents aussi, et vous êtes je crois le fruit d'un métissage absolument incroyable. Vous pouvez me raconter ?
Ben, je suis le fruit d'un métissage, je suis le fruit de la Guadeloupe en fait. J'ai un peu la chance d'avoir un peu toutes les composantes de la Guadeloupe puisque ma grand-mère du côté paternel est amérindienne.
Ouais.
Du côté de mon père.
Donc amérindien, ça veut dire que ce sont les habitants de l'île avant que Christophe Colomb ne la découvre.
Exactement, ce sont les premiers habitants de l'île. Et on a tendance à dire, tellement on est chauvin en Guadeloupe, que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert la Guadeloupe, mais ce sont la Guadeloupe qui a découvert Christophe Colomb, puisqu'il y avait déjà des habitants.
Pardon, c'est vrai, vous avez raison.
Donc, non, mais c'est un petit clin d'œil parce qu'on est assez fiers. Donc en fait, oui, ma grand-mère était d'origine amérindienne. Et moi, je suis, donc voilà, j'ai la culture, enfin, j'ai du côté de mon père et ma mère, en fait, c'est vraiment un mélange. On a des Indiens d'Inde, ceux qui sont venus après l'esclavage travailler la terre.
Ouais.
J'ai des origines aussi africaines et des origines syriennes et amérindiennes. Donc, j'ai un peu toutes les composantes de la Guadeloupe.
Ah bah
et c'est un petit peu le fruit de cette culture, en fait, hein,
ouais.
qui est très métissée.
Mais la Guadeloupe tout entière est très métissée comme ça.
Oui, la Guadeloupe, nos plats, notre culture est issue de toutes ces composantes, en fait. C'est ce qui fait la créolité, et c'est notre fierté et notre force aussi.
Alors, vous êtes originaire de Grande-Terre, de la commune du Moule, très exactement. Votre femme est de Basse-Terre. Alors, il y a un truc marrant que j'aime beaucoup là-bas, c'est que Grande-Terre, c'est la terre la plus basse et Basse-Terre, c'est la terre la plus grande. Hein, c'est ça ?
Oui. Oui, c'est ça, exactement.
Et donc, est-ce que Basse-Terre... Attendez, c'est Grande-Terre la plus basse et Basse-Terre... Oui, parce que c'est sur Basse-Terre qu'il y a la Soufrière, c'est ça ?
Exactement, exactement. Mais en fait, c'est par rapport à la situation géographique de l'île dans l'océan, en fait. Hein. Donc, c'est du côté bas, de l'autre côté. Donc, et Grande-Terre, c'est de l'autre côté, du côté de l'Atlantique.
D'accord, parce que c'est par rapport au vent, hein, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est exactement, c'est ça.
D'accord. Et pouvez-nous décrire un peu les paysages de Basse-Terre ?
Alors en fait la Basse-Terre, la chance qu'on a, c'est en fait on a l'impression que c'est une émeraude qui est posée au milieu de la Caraïbe. Elle est verte,
ouais.
Totalement verte. C'est vraiment un écrin d'émeraude posé sur l'océan. une forêt luxuriante avec avec des une forêt tropicale, énormément de végétation, des cascades dignes de paradis. D'ailleurs, on a des cascades qui portent le nom de Paradise. Vous avez les chutes du Carbet, vous avez la cascade aux Écrevisses, vous avez le saut de la Lézarde, le saut d'Acomar, qui sont des lieux très prisés en Guadeloupe. Et surtout, la Basse-Terre, on y aime faire des balades, en fait, des randonnées. Et c'est là aussi où se trouve la vieille dame,
le volcan,
souffrière, qui nous protège. On dit qu'elle nous protège, même si elle est quand même très active, la souffrière.
C'est curieux, c'est ambivalent d'ailleurs de lui donner un petit nom affectueux, alors que c'est un volcan qui peut se révéler dangereux.
Mais c'est peut-être aussi pour lui dire qu'on est avec toi, qu'on t'aime, et donc ne sois pas trop méchant avec nous.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup en Guadeloupe aussi, c'est le goût des traditions et de la fête, surtout. Allô, vous êtes là? Oh, un grand silence, tiens. Il y a un gros délai. On va faire une petite pause, essayer de corriger ce petit problème technique. On se retrouve juste après, à tout de suite.
16h-18h, et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Et nous sommes partis en Guadeloupe. Nous avons retrouvé notre camarade guadeloupéen Steve Salim. Guadeloupéen et fier de l'être. Vous m'entendez, Steve? Ah, bah décidément, alors c'est dommage. Il y a encore un petit décalage.
Tout à fait, je vous entends.
Alors Steve, il y a un gros décalage entre nous, donc le dialogue va être un petit peu plus compliqué, mais je suis sûr que vous allez nous raconter ça à merveille.
Je vous entends parfaitement.
Il y a un truc que j'adore, moi, en Guadeloupe, c'est le goût des Guadeloupéens pour se retrouver ensemble et faire la fête. Il y a un moment particulièrement sympa, c'est où tout le monde se retrouve sur la plage pour manger du crabe, faire des grillades. Il y a un goût comme ça du partage qui est formidable.
Ben, écoutez, en fait, on a les fêtes de Pâques. Ouais. Et en fait, il faut savoir que c'est l'aboutissement, en fait, de 40 jours de jeûne, hein, puisque c'est pendant 40 jours, pendant le carême.
Théorique.
Les gens ne font pas la fête. Et en fait, on rompt le jeûne pour les fêtes de Pâques.
Ouais.
Et là, tous les Guadeloupéens se retrouvent sur la plage à manger des calaloux de crabe. Des colombos de crabe, en fait, crabe en toute sauce, comme on dit. D'ailleurs, il y a même une fête qu'on appelle la fête du crabe et sur Mornalo. Et c'est pendant cette période-là, effectivement, on mange énormément de crabe. Toujours dans le respect de la nature, hein, parce qu'en fait, il faut savoir que cette période-là, c'est la période où il y aura peut-être le plus de crabe. Et on sortira aussi de la période de reproduction du crabe. Donc, ça tombe très, très, très bien. Et puis, tous les amis se retrouvent sur la plage et on se partage nos pinces de crabe. Voilà.
Et il y a le carnaval aussi qui est énorme.
Mais, vous avez le carnaval qui arrive à un moment où on a déjà passé quand même un mois de fête. Il faut savoir que la Noël chez nous, ça commence le 1er décembre. Alors dès le 1er décembre, on commence par des chantés Noël. Donc vous avez des familles qui se réunissent, où on chante ensemble, on célèbre les fêtes de Noël, on célèbre le partage. Il y a énormément d'événements festifs autour de ça, dans des magasins, sur les places publiques, où le maire vient chanter avec tout le monde.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose de très festif. Et surtout, ce sens du partage et de la solidarité, on l'a à ce moment-là. Parce qu'en fait, les portes restent ouvertes tous les jours et tout le temps, on partage du schrob, qui est une sorte de boisson locale qu'on boit pendant les fêtes de Noël à base de rhum et d'écorce d'orange.
Ouais. Il y a toujours une bonne raison pour faire la fête, ça j'ai bien remarqué. Et Nathalie, on partage un goût pour un rendez-vous aussi qu'on aime bien tous les deux, c'est le rendez-vous des cuisinières.
Oui Steve, là, il s'agit de la fête des cuisinières. Alors vous qui êtes dans les fruits et légumes, vous devez bien la connaître, hein. Il s'agit de cette fête extraordinaire qui date de 1916. En fait, c'est un groupe de femmes guadeloupéennes, hein, qui a voulu s'assurer la possibilité de s'offrir des funérailles dignes de ce nom. Elles ont formé une sorte de cuistot mutuel, on appelle ça comme ça, et depuis, elle célèbre une fête donc, qui a lieu, je crois, tous les 10 août, ou tout au moins tout à fait proche de la Saint-Laurent, hein, c'est-à-dire aux alentours du 10 août, où elles amènent des fruits et légumes dans des petits paniers, avec des rubans sur tous les ustensiles de cuisine. C'est vraiment un concours de grandes cuisinières.
Et puis, elles sont habillées vraiment divinement. Elles portent le costume traditionnel créole, où elles mettent leurs plus beaux bijoux. Elles font leurs meilleurs plats. Chacune a une spécialité. Non seulement c'était pour s'assurer des funérailles dignes, mais elles se réunissent pour se transmettre énormément de secrets au niveau de l'art culinaire guadeloupéen. Donc elles vont se passer des petits secrets et elles s'assurent aussi qu'il y aura une transmission avec leurs enfants. Ouais. Et donc c'est vraiment une fête magnifique et les Guadeloupéens sont pour le Guadeloupéen, je pense que les cuisinières et la fête des cuisinières c'est vraiment ancré dans un événement au niveau de l'année qui est incontournable quoi.
Alors il y a quand même un truc dont il faut qu'on parle, c'est il y a une petite réputation en métropole des Guadeloupéens d'être un peu froid parfois quand on va à leur rencontre, quand on vient de métropole, notamment sur les marchés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des codes à connaître pour bien aborder les Guadeloupéens ? D'où ça vient, cette histoire ? Parce que, pour être très honnête, je suis allé en Guadeloupe très récemment, je ne les ai pas trouvés froids du tout. Mais malgré tout, il y a cette image qui traîne, qui rôde. Comment vous expliquez ça ?
En fait, au premier abord, le Guadeloupéen peut paraître froid. Mais je pense, dès qu'on commence à lui parler, et surtout à lui parler de ses productions, là, il va se libérer. Parce qu'en fait, il aime expliquer ce qu'il fait. Il n'est pas là pour qu'on... Il n'aime pas qu'on arrive d'un coup, qu'on commence à marchander en disant « Ouais, mais vous êtes sûr que c'est ça, vous êtes sûr que c'est bon, je ne veux pas me faire avoir. » Ce qu'il aime, c'est qu'on lui parle de ses produits, qu'on commence à discuter avec lui, qu'on lui parle de sa tradition, qu'on lui demande de lui expliquer d'où il vient. Le Guadeloupéen est très, très ouvert. Il vous invitera même à venir manger chez lui s'il le faut. Hein.
D'accord.
Et généralement, il vous proposera de goûter son produit. Non, en fait, il faut savoir qu'en fait, il y a... Effectivement, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui se retrouvent un petit peu fermés, mais très rapidement, avec quelques sourires, tout repart dans le bon sens.
Hein. Ouais, ça, j'ai remarqué. Un grand sourire.
C'est vraiment un mythe.
Un grand sourire et tout s'arrange. Emmanuel ?
Oui, moi, je peux témoigner de ce que dit Steve, parce que j'ai parcouru le marché du moule avec lui, qui connaît dans toutes ces personnes, et on a dégusté plein de choses, des ananas, plein de confiseries, plein de gâteaux, plein de choses, et avec plein de grands sourires en échange.
Oui, mais c'est parce que vous étiez avec Steve.
Parce que j'étais avec Steve, non, pour dire que comment on connaît.
Steve,
effectivement, le marché du moule, c'est un marché de producteurs. Donc, effectivement, on aime proposer. Ouais. Ils aiment montrer leur production. Ils aiment faire goûter. Et ils sont très, très, très fiers. Vous savez, ce sont des gens qui viennent avec leur production, qui arrive à maturité, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est un petit peu leur fierté d'amener ça sur le marché.
Merci beaucoup, Steve, de nous avoir parlé avec tant d'amour de votre Guadeloupe. Je sens que vous pourriez en parler pendant des heures. Je rappelle que vous travaillez dans le monde de l'agriculture et que depuis fin 2014, vous avez créé l'entreprise Guadeloupe Forever. Vous produisez des fruits et des légumes que vous distribuez vous-même à travers des petits paniers. Au tout début, vous avez commencé par livrer 4 paniers, je crois, par semaine. Et aujourd'hui, vous en livrez plus de 600. Donc, c'est un vrai succès. Merci beaucoup, Steve. Vous nous avez donné envie de retourner en Guadeloupe. On se retrouve dans un tout petit instant.
Merci à vous.
Au revoir, Steve. On se retrouve dans un tout petit instant avec les histoires savoureuses de Nathalie Hellal, les histoires les plus croustillantes qui se nichent dans l'histoire de la Guadeloupe. Dans un tout petit instant. Sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Si on partait, nous sommes en Guadeloupe jusqu'à 17h avant de partir pour la Suisse tout à l'heure. Et nous parlons en Guadeloupe maintenant d'un petit peu de l'histoire de cette terre et des termes, des mots qui reviennent souvent là-bas, qui sont utilisés. Il y a un mot quand on se balade sur les îles de Guadeloupe qu'on entend tout le temps, c'est le mot « béquet ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Nathalie ?
Oui, alors je vous le dis tout de suite, c'est un sujet un petit peu touchy, comme on dit, un petit peu délicat. Ils ne sont pas toujours très bien vus. Les béquets, en fait, ce sont les descendants des premiers colons, les nobles, qui se sont installés aux Antilles au XVIIe siècle, à la fois pour redorer leur blason ou carrément sur ordre du roi. Donc d'abord, on les a appelés créoles. Mais en fait, ce terme, aujourd'hui, ça désigne surtout la population noire des Antilles. Les béquets, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils représentent environ 1 à 2% de la population des Antilles. Il y en a environ 2000 en Guadeloupe et ils descendent de ceux qui ont échappé à la guillotine de la Révolution française sans avoir eu besoin de se réfugier hors du territoire français. C'est-à-dire que certains ont couru se réfugier soit sur Saint-Barthélemy, soit sur Saint-Martin, à Martinique, en Suède. Mais en Guadeloupe et dans toutes les Antilles, on parle d'un béquet à la fois pour une personne, mais on peut aussi évoquer la population béquet ou la culture béquet.
Et l'origine exacte du mot, c'est quoi ?
Il y a plusieurs pistes. Certaines sont sont assez fantaisistes. Alors on dit que fréquemment que c'était les blancs des quais, c'est-à-dire ceux qui contrôlaient le départ des marchandises en provenance de leurs plantations. On dit aussi, c'est souvent ceux qui disaient « eh ben quoi ?» et « béqué ?» Eh ben quoi ? Okay. Ou encore ce serait, paraît-il, une abréviation de blanc créole, béqué.
Ah, oui.
Et puis selon d'autres sources encore, c'est un mot issu du langage Igbo du sud-est du Nigeria, anciennement le Biafra, qui signifie tout simplement blanc. Alors, il y a deux expressions typiques qu'on entend également en Guadeloupe, les blancs pays. Qu'est-ce que c'est ? Les blancs pays, bah, c'est lié au contexte de la Révolution française et surtout à la première abolition de l'esclavage en 1794. Je vous explique pourquoi. Il y avait les troupes britanniques qui occupaient la Guadeloupe depuis avril 1793 et la crainte des révolutionnaires français, eh bien, c'est que les colons ne livrent l'île aux Anglais pour rétablir tous les privilèges. Donc, la quasi-totalité des grands propriétaires terriens, qui sont en fait les grands planteurs de l'île, va être guillotinée sauvagement par les troupes révolutionnaires du français Victor Hugues, un marin célèbre, qui organise à la fois un soulèvement populaire contre les Britanniques et en même temps cette grande exécution de masse. Et puis surtout, il va faire dégager les Britanniques en décembre de la même année. Et puis les rares survivants planteurs s'enfuient dans les îles alentours. Et ce sont les descendants des colons de Guadeloupe n'ayant pas été exécutés qu'on va appeler les blancs pays, c'est-à-dire les petits planteurs, les marins, les commerçants, les militaires. Et puis par la suite, progressivement, bien, quelques béqués de la Martinique vont s'installer en Guadeloupe tout en conservant étroitement leur lien avec les familles d'origine.
Ouais, c'est compliqué. Hein, il faut...
Oui, c'est toute une histoire très particulière avec beaucoup de polémiques autour. Alors moi, j'essaye d'être très factuelle dans tout ce que je vous raconte.
Alors, l'autre expression que vous avez retenue, qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est les blancs matignons. Alors, historiquement, ce sont des travailleurs engagés sur les terres en échange du prix de la traversée depuis la France. Donc, en fait, il s'agit de colons pauvres, sans nom, sans prestige évidemment, plutôt que des propriétaires terriens qui veulent échapper à la guillotine. Ça n'a rien à voir. Eux, ils n'avaient comme richesse que la couleur de leur peau, d'où les nombreux mariages consanguins pour préserver, et je mets plein de guillemets là-dessus, la blancheur de la descendance. On raconte que ces blancs matignons se sont réfugiés à la Révolution dans les hauteurs des Grands Fonds, autour de lieux-dits Matignon. Donc ils ont formé une sorte de caste, ils ont vécu en autarcie, ils sont reproduits entre eux, mais ils n'avaient aucun pouvoir économique ou foncier. Et donc, après l'abolition de l'esclavage, ils se sont mis à travailler eux-mêmes leurs plantations, puisque je vous rappelle qu'ils n'avaient aucun moyen. Il serait environ 400 aujourd'hui blancs matignons descendants de ces pauvres colons malchanceux. Ceci étant dit, pardon, entre plusieurs guillemets, évidemment.
Un petit peu de musique et de légèreté, peut-être ?
Oui, oui, absolument. Un petit peu de croustillant. Oui, alors j'avais envie de vous emmener danser la biguine avec moi. Vous savez, la biguine, c'est la... ça fait partie intégrante de la culture de l'archipel. C'est une musique qui a su traverser les années, depuis la période de l'esclavage jusqu'à nos jours. Et alors, son nom, il y a aussi une origine assez curieuse. Il vient de l'anglais. Il vient de l'anglais « begin » qui signifie « commencer » parce que c'est le terme prononcé par les chefs d'orchestre anglais en début de présentation. Cela dit, « embéguiner » en français, ça voudrait dire « coiffer d'un béguin », c'est-à-dire un bonnet. Donc un peu les deux origines. En tout cas, dans cette musique, on retrouve beaucoup de similitudes avec les orchestres de jazz de la Nouvelle-Orléans. Et à l'origine, eh bien, la biguine, elle est jouée par des musiciens noirs. Ça regroupe une flûte, un violon, une clarinette, une guitare, un banjo, un saxophone, une trompette et une batterie. Et parfois, comme dans le jazz de la New Orleans, il y a des impros. C'est une musique très riche parce qu'elle regroupe différents styles, très nombreux styles.
Ouais. Mais alors, Begin, c'est une musique ou une danse ?
Ben, c'est les deux, en fait. En tant que musique, elle apparaît au 19e siècle et elle dérive notamment du rythme du guoka. Alors, qu'est-ce que c'est le guoka ? C'est un son qui est joué depuis toujours par les Guadeloupéens sur un tambour de fortune qu'on appelle le ka, qui est fabriqué à partir d'un tonneau de salaison. C'est improbable, mais ça leur sert d'instrument de musique. Et on retrouve d'ailleurs des similitudes entre la biguine et puis d'autres genres de musique africaine importés par les esclaves. Et cette biguine, elle se danse aussi à deux. Surtout d'une manière très tonique et lascive à la fois pour collé les femmes.
Collé serré, on va dire.
Ouais, très collé serré pour les femmes avec leurs partenaires. Et il faut savoir qu'en métropole, eh bien, après la Première Guerre mondiale, les Antillais jouaient la biguine dans les meilleurs clubs de Paris. Il y a eu un grand engouement dans les années 30, surtout après l'exposition coloniale internationale de 1931 et puis ensuite dans l'après-guerre. When they begin the Alors, vous reconnaissez la voix chaude d'Ella Fitzgerald. En fait, c'est un morceau qui s'appelle Begin the Begin, qui a été composé par Cole Porter en 1935. Et c'est pas un rythme de begin, mais c'est un rythme de jazz. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous traduire les premières paroles. Quand ils entonnent la begin, elle fait surgir la sensation d'une musique si tendre. Elle fait renaître des impressions de splendeur tropicale.
Merci beaucoup, Nathalie. Nous continuons à voyager en musique et en cuisine avec Emmanuel Jarry dans un tout petit instant. Cuisine créole et plein de petites bonnes choses. À tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tout à l'heure, nous irons dans un pays qui est tout près, à portée de main, à quelques centaines de kilomètres, qui pourtant est une petite merveille méconnue. Des paysages de cartes postales, c'est le monde de Heidi, des paysages qui sont comme des jardins finement ciselés. Moi, je l'adore, ce pays. C'est la Suisse. Mais pour l'instant, nous sommes en Guadeloupe. Et oui, et ça marche à tous les coups. Hein. On est bien.
Encore.
Emmanuel Jarry, on va parler de la cuisine créole. Alors rien que les noms des plats, tout à l'heure, vous nous avez alléchés.
Hein, ça donne envie quand même. Le matété à Touloulou.
Ben oui.
Ça, c'est un plat de crabe de terre qu'on mange à Pâques. Steve nous en a parlé. Donc c'est vrai que c'est une cuisine qui est très dépaysante, déjà par les mots, par les expressions. Je vous donne un autre exemple, l'ananas bouteille.
Ouais.
En fait, il est très allongé, très sucré aussi, bien sûr, sous le soleil de la Guadeloupe. Donc voilà, on l'appelle l'ananas bouteille. Ou alors le blaf de poisson blanc.
Le blaf de poisson blanc.
Voilà, et c'est un courbouillon de poisson. Et blaf, ça évoque le bruit que fait le poisson quand on le jette dans l'eau.
Ah, vivant.
Ah ben non. Non, mais vous savez, plaf, comme ça, ou plouf.
Non,
mais
parce que j'aime pas quand on jette les
quand
bêtes
on fait
dans
du mal aux animaux.
Deux,
non, là, on est très gentils. Donc voilà, c'est une langue qui est très imagée. Et la cuisine guadeloupéenne, elle commence donc par cette langue savoureuse, qui est portée en plus par un bel accent, comme on a pu l'entendre avec Steve Salim tout à l'heure. Et ça révèle un phénomène qui se produit dans la langue, mais aussi dans la cuisine. C'est le processus de créolisation. C'est-à-dire que cette cuisine est née de la rencontre de différentes influences européennes, caribéennes, africaines, orientales. Alors, je vous donne deux exemples. Le colombo de Mérou de poulet, c'est une recette à base d'épices qui s'inspire de l'Inde ou du Sri Lanka. Parce qu'en 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage, il y a beaucoup de travailleurs indiens qui sont venus travailler sur l'île. Et donc voilà, hop, on a intégré leur recette. Ou alors, par exemple, le boudin créole, qu'on appelle aussi le boudin pays, ou encore le boudin à cochon. Donc ça, c'est une technique de fabrication du boudin apporté par les colons, mais qui est accommodé à la mode antillaise. Donc on mélange au sang du cochon des épices, la farine de manioc, la patate douce. Donc voilà, c'est une formidable leçon de tolérance. La cuisine créole intègre toutes les cultures pour former sa propre cuisine.
Ouais. Et alors, d'île en île, est-ce qu'il y a des variantes ?
Oui, alors ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce que ces îles, elles sont finalement pas si éloignées les unes des autres et chacune possède sa propre cuisine. Quand on arrive aux Saintes, à Terre de Haut, on déguste les tourments d'amour.
Alors ça, c'est les tourments d'amour.
Oui, c'est des petits gâteaux à la noix de coco. On raconte aujourd'hui que sur l'île, que les femmes fabriquaient ces gâteaux pendant que leurs époux étaient partis en mer pour tromper leurs tourments. Mais je pense que l'histoire est fausse.
Ah bon ?
Parce qu'en fait, je l'ai souvent entendu sur les îles, ces femmes qui préparent de la cuisine.
À ce moment-là, la Bretagne, ça marche aussi.
Voilà, exactement. C'est pour ça que je pense ça. Mais je me dis, c'est amusant, ces petites histoires qui circulent. Et puis, surtout, c'est très bon. Alors voilà, un gâteau qu'on ne trouve qu'à la sortie du bateau aux Saintes. À Marie-Galante, on mange le bébélé, qui est un genre de soupe d'abat, ou le chaudage, qui est un pot-au-feu antillais. Et vous changez d'île, c'est fini, ça disparaît.
C'est marrant. Marie-Galante, j'adore le nom.
Ouais.
Ça fait rêver.
Ouais,
moi, c'est mon île préférée, parce qu'elle est restée encore très agricole. On peut croiser des coupeurs de cannes. Ouais. Vous en avez vu, Jean-Bernard ?
Avec les tirés par les chars à bœufs.
Exactement.
C'est génial.
Ça, c'est super. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas du folklore. Parce que couper les cannes à la machette, ça permet de les couper très à la base. Et donc, on a des longues cannes et elles sont plus concentrées en sucre. Mmh. Et donc, le rhum est meilleur. Et pareil pour les charrettes. Ce n'est pas du folklore. Les distilleries qui font ça, c'est parce qu'au moment de les poser sur les charrettes, on les sépare les tiges des pailles. Mmh. Et donc, le jus va être plus pur et meilleur.
Un travail extrêmement dur, comme j'ai pu le voir.
Ah, bah oui. Non, mais voilà, pour la qualité du rhum, du rhum agricole. Mais alors, donc, sur Marie-Galante, on fabrique aussi le sirop de batterie. Donc, ça, c'est un.
Le sirop de batterie.
Ouais. Alors, la batterie, c'est.
On fait ça dans son garage le soir, une fois qu'on a rentré la voiture. Non, comment ça se passe?
C'est vrai que c'est étonnant parce que c'est toujours ces expressions. On se dit, mais d'où ça sort?
Et en fait, un bon jus de batterie.
Un bon jus de batterie. Là, vous savez que c'est très rapide. rafraîchissant. On le coupe à l'eau, c'est du sirop de canne. On le coupe à l'eau avec du citron vert. Et en fait, c'était le nom qu'on donnait autrefois à la dernière chaudière pour fabriquer le sucre dans les sucreries. Donc voilà, on l'appelle comme ça. Et c'était à la fin, quand on avait tout fini le rhum, on faisait avec le reste le sirop de batterie.
C'est une espèce de sous-alcool, en fait.
C'est les résidus.
Non, mais il n'y a pas d'alcool. Hein. C'est vraiment un sirop, de sucre. Ouais. Et parce que, voilà.
Et puis on donnait ça aux enfants, j'imagine.
Non, mais j'en ai goûté, c'est très, très bon.
Et alors, dans ces îles où on produit beaucoup de sucre de canne, les desserts, ils doivent être dingues.
Eh bien, alors, ils sont bons, mais surtout, alors, je vous en ai parlé d'un tout à l'heure, la popote à fruits à pain.
Alors,
ça, c'est l'arbre à pain est originaire des îles de la Sonde et il arrivait aux Antilles au XVIIIe siècle. Il avait été importé par les Anglais qui voulaient en faire la matière première de l'alimentation des esclaves. Donc, forcément, bah, ils en ont mangé, ils l'ont cuisiné. Au fil du temps, ils ont créé des recettes, dont celle-ci. Alors, c'est la popote à fruits à pain, mais c'est fabriqué avec la fleur de l'arbre à pain. On en fait une confiserie. Alors, on attend que la fleur tombe, on l'accueille surtout pas. On la ramasse, on la fait bouillir, on la trempe dans du sirop, on la fait sécher au soleil et ça donne des fruits confits. Comme de la pâte de fruits chez nous, c'est délicieux. Ouais. Et on la trouve notamment sur le marché du moule, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors sur ce marché, on peut trouver toutes sortes de fruits, mais aussi des mélanges d'épices, comme le masala, donc toujours une allusion à la cuisine indienne. On trouve aussi le colombo, un autre mélange d'épices. Et surtout, on trouve le bois d'Inde. Alors ça a été peut-être...
Le bois d'Inde,
c'est un arbre. Et de toutes les découvertes que j'ai faites en Guadeloupe, c'est celle qui m'a le plus impressionnée. Parce que sur cet arbre poussent des feuilles qui ont des parfums différents.
Ah bon ?
Soit la citronnelle, soit le clou de girofle, soit l'anis.
En fonction de quoi ? De la saison ? Non,
c'est
au même moment ?
Au même moment. Et en fait, sur un même arbre. Alors normalement, chaque arbre développe son parfum. Mais moi, j'ai vu un arbre sur lequel... chaque branche avait des feuilles avec des parfums différents. Oui, c'est complètement... Je vois votre visage étonné, mais c'est vrai, je vous jure, je l'ai vu, je l'ai goûté.
Mais vous aviez
goûté
le rhum avant.
J'avais pas bu de rhum, j'étais à jeun le matin. Et en fait, ce que m'a expliqué le producteur, Gérard Beaujour, il m'a dit en fait, les molécules de chaque parfum sont présentes dans l'arbre, mais l'arbre choisit ce qu'il a envie d'exprimer. Alors, je sais pas si scientifiquement c'est vrai.
C'est très beau. Hein.
Est-ce que l'arbre vous a parlé ?
Non, absolument pas. Non, mais tout ça, c'est très sérieux et très vrai. J'aurais pu vous en apporter, tiens, parce que j'en ai moi-même rapporté.
Mais oui, c'était une bonne idée.
Et en fait, non, mais c'est assez étonnant et j'ai trouvé que c'était une belle histoire, ça m'a émerveillée. Et puis en plus, c'est vraiment une épice délicieuse dans tous les plats cuisinés guadeloupéens.
Merci beaucoup, Emmanuel. À tout de suite sur Europe 1 avec tous les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier pour profiter à plein de la Guadeloupe et ne pas rater le meilleur. À tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler. Faut savoir bien biguiner,
c'est bon pour le moral. Ah, c'est bon pour le moral.
Ah oui, c'est bon pour le moral, ça fait du bien. Nous repartons en Guadeloupe tout de suite. Et surtout, ben, quand on part en Guadeloupe, il ne faut pas se rater. Il faut aller aux bons endroits, avoir de bons conseils. Et il faut tendre l'oreille aux avis de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Comment est-ce qu'on aborde la Guadeloupe, Jean-Bernard ?
Ben pour moi, la Guadeloupe, au départ, c'était synonyme de bulle. Alors,
de
pas,
bulle.
Pas celle que vous croyez.
Il est resté
bloqué dans les câbles.
Non, en fait, je vais vous dire, j'ai découvert la Guadeloupe pour la première fois pour ses fonds marins.
Les bulles du plongeur.
Exactement. La réserve Cousteau, qui se trouve à 1 km au large de la côte ouest, donc de la Basse-Terre, qui se compose de plusieurs îlots. Dans les années 60, il y avait le célèbre commandant au bonnet rouge, Cousteau, qui avait déclaré que cette zone autour de ces îlots était l'un des plus beaux sites mondiaux de plongée et qu'elle méritait d'être protégée. C'était un coup marketing génial. Du coup, c'est devenu un petit parc sous-marin qui a été créé et donc une zone de plongée absolument superbe. Alors, honnêtement, c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est pas les Galapagos, c'est pas de la très grande plongée. Mais franchement, malgré les 80 000 plongeurs qui viennent là plonger, c'est une très bonne surprise. Il y a plein de gorgones, de petits poissons. Franchement, c'est un bel aquarium dans 3 à 6 mètres d'eau, un petit jardin sous-marin, du beau corail. C'est idéal pour les baptêmes. Oui. Je vous regarde, Emmanuel, parce que je crois que vous êtes...
Oui, non, j'ai pas réussi.
Voilà. Ben, vous devriez retourner dans cette réserve Cousteau.
Je suis allée sous l'eau, puis je suis remontée tout de suite et je supporte pas de respirer avec la machine.
Bon, retournez avec moi, je vous y emmène. Je précise, je suis quand même moniteur de plongée. Je vous y emmène. Mais oui, Nathalie, j'ai quelques...
Mais quel talent. Mais quel homme.
Donc je veux bien vous faire un baptême dans la réserve Cousteau,
plaisir,
parce que c'est
vous,
vraiment un endroit idéal pour les débutants. Ouais. Très sécurisant. Hein.
Alors ça, c'est pour ceux qui aiment le côté mer, mais à l'intérieur des terres, il y a le volcan quand même.
Ah, ce volcan, j'en ai encore des images plein la tête, une expérience mémorable et surtout accessible, Philippe. 1467 mètres d'altitude, vous l'avez dit.
Ça fait une bonne petite grimpette
alors,
quand même.
Non, écoutez, non 2 heures, ça va quand même. On laisse la voiture au parking, on marche 2 heures.
Sous un soleil de plomb.
Alors, pas au début. Il y a une forêt tropicale, je précise. On est d'abord dans cette belle forêt tropicale, il y a une super ambiance dans cette forêt, c'est très vert, la chlorophylle partout. Et effectivement, à mesure que l'on monte, la végétation se raréfie, effectivement. Les teintes changent, on passe du vert très dense au côté plus jaune, plus ocre. Et on débouche à l'arrivée au sommet sur un paysage lunaire avec des pitons, des crevasses, des fumerolles qui viennent du centre de la Terre. Et si vous avez de la chance, si les nuages s'ouvrent, vous aurez un panorama à 360 degrés sur tout l'archipel. Il y a quand même des nuages 300 jours par an, il faut avoir un petit peu de chance.
On y était là, Jean-Bernard. Mais c'est vrai que c'est souvent sans les nuages. Hein. Faut bien
c'est
viser.
Souvent, voilà, c'est vrai. Mais c'est une expérience à vivre. Et franchement, pour aller 3 heures aller-retour, ça vaut le coup d'y passer la demi-journée.
Donc la Soufrière, c'est sur Basse-Terre. Et sur Grande-Terre, il y a un endroit que vous recommandez ?
Il y a un endroit que j'adore. Alors je pensais que Steve allait en parler, parce que c'est pas très loin de chez lui, c'est pas très loin du Moule. Ça s'appelle la Pointe des Châteaux.
Ah oui, c'est beau.
C'est à l'extrémité est de l'île. C'est l'équivalent de notre pointe du Raz en Bretagne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le Finistère de la Guadeloupe. C'est très sauvage. On laisse son véhicule au parking. On suit un petit sentier qui conduit un belvédère. Et là, on a une vue magnifique sur toute la côte déchiquetée. C'est pas des plages. C'est vraiment une côte très déchiquetée, très sauvage. Et les vagues en furie qui viennent taper contre ce littoral. Voilà. En revanche, c'est pas
vous
un lieu de
baignade.
Vous pouvez
me refaire la vague en furie, s'il vous plaît.
Mais c'est pas un lieu de baignade, Philippe, je vous l'ai dit.
Et sur la route, il y a des très bonnes sorbets coco.
Sorbets coco,
Nathalie.
Ouais.
Non, on avait vu le cas, maintenant on a posé Poséidon.
Le royaume du dieu de la mer, voilà, c'est ça.
Alors, justement, si on veut se baigner, on va où ?
Alors là, on quitte Basse-Terre et Grande-Terre. Moi, mon coup de cœur, il se trouve sur l'île qui s'appelle la Désirade, la Pianorée.
Elle est étonnante, celle-là.
Avec ce nom, on a envie de se laisser porter.
Et vous savez pourquoi elle s'appelle la Désirade ?
Non.
C'est parce que, alors je vous le fais de tête, hein, je veux dire, c'est approximatif, mais je crois que c'est parce qu'après des mois de navigation, les équipes des découvreurs, donc de Christophe Colomb, n'en pouvaient plus de cette navigation. Et ils n'ont pas accosté sur les grandes îles de Guadeloupe, ils sont allés, ils ont aperçu d'abord l'île de la Désirade et ils ont crié « Ô île tant désirée ».
Tant désirée.
Et c'est devenu la Désirade.
Elle le reste pour les gens comme nous qui veulent des belles plages. Parce que la plus belle plage, à mon sens, de tout l'archipel, c'est la plage du Souffleur. Du sable blond et fin, l'ombre des palmiers, un hamac tendu entre deux troncs, une petite brise marine qui vient me lécher le visage. Et là, si vous avez une petite faim, une petite soif, ça peut arriver, même en plein farniente. Il y a une petite roulotte au bord de la plage qui propose une fricassée de lambi. Emmanuel, c'est un coquillage dont la chair est délicieuse. Voilà.
Si elle est bien cuite, sinon c'est vite du plastique.
Oui, voilà. Mais ils savent faire ça.
Mais il y a des hôtels sur cette île où
on
peut y dormir.
Il y a quelques petites pensions de famille.
Il n'y a pas grand-chose.
C'est très peu
peuplé. Je la vois, mais je n'y suis pas allée.
Voilà, c'est une grande falaise.
Exactement. 1500 habitants, ce sont tous des descendants de Bretons, d'ailleurs.
Extraordinaire.
Excellents pêcheurs, les gens de la Désirade.
Il y a une autre île qui vous plaît là-bas ?
J'hésite entre les Saintes et Marie-Galante. Alors, comme vous avez parlé de Marie-Galante, je vais parler des Saintes. C'est vrai que j'ai aussi un gros coup de cœur pour cet archipel. En fait, les Saintes, il y a deux îles habitées, Terre de Haut, Terre de Bas. Terre de Haut, j'aime bien quand j'ai besoin d'animation. Il y a plein de petits bars, des restaurants le long du bourg principal. Il y a tous les voiliers qui sont en train au mouillage, qui se trouvent derrière. C'est vraiment la carte postale des Caraïbes par excellence. Mais quand j'ai vraiment envie de me couper de tout, direction Terre de Bas, c'est l'île juste à côté, à seulement un kilomètre. Là, c'est le calme absolu. Je prends les sentiers de travers, je me balade, je discute avec les pêcheurs quand ils reviennent de leur séance de pêche. Et si je suis d'humeur, je fais un petit tour du côté de la maison de l'artisanat. On y trouve des beaux objets réalisés localement, notamment des salakos. Ce sont des chapeaux ronds tressés que portaient les pêcheurs. Je suis sûr que ça vous irait bien, Philippe.
Pourquoi
un salako ?
Pourquoi moi ?
Je ne sais pas. Je me suis dit, pour votre prochaine expédition, pour Faut pas rêver, vous mettrez un salako après tout.
D'accord.
Il y a même des casiers de pêche décoratifs. Ça serait plutôt pour Emmanuel. Ça pour votre prochaine déco dans
votre bel
appartement.
Et puis on y mange les meilleurs acras de toute l'archipel, chez Eugénette.
Ouais. J'ai mangé du très bon poisson aussi. Là.
Ah oui, magnifique.
Et puis pour Nathalie,
vous êtes croisé une fois là.
et puis pour Nathalie, j'ai trouvé des beaux objets réalisés avec du bois flotté.
Il y a un message subliminal ?
Non, pas du tout. C'est pour votre décoration.
Je sais pas, il y a Jean-Bernard qui nous rabit tous aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on aura peut-être des explications plus tard. Merci les amis, on reste ensemble pour la deuxième heure de Et si on partait dans quelques instants après le flash de 17h. Nous partirons pour une destination en encore plus douce. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis encore plus douce. Parce que. Pff, non, en fait, non. Excusez-moi.
Très différente.
Très différente. Oui, non, non, absolument pas. Une décision très différente. Beaucoup plus fraîche. Le pays des montagnes. Mais vraiment, c'est un pays merveilleux parce que les paysages, c'est un jardin immense. C'est ciselé, c'est ourlé par les agriculteurs qui prennent soin de ce pays comme d'un petit bijou. On sera bien sûr avec toute la bande de Joyeux Voyageurs, mais aussi avec un auteur à succès qui vit à Genève, Joël Dicker. Il sera avec nous dans un instant sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 17h. Un point sur l'info avec vous, Yasmine Akatou.
Il fait chaud, il fait même très chaud. 6 départements de plus placés en alerte rouge canicule. Les Hauts-de-France et la Seine-et-Marne sont désormais en alerte rouge. En tout, 15 départements sont en alerte rouge du nord au sud de la France. 49 classés en vigilance orange. Au Liban, plus de 6000 blessés et 158 morts selon le tout dernier bilan après l'explosion mardi à Beyrouth. Le ministère a revu à la baisse le nombre de personnes portées disparues. Les équipes sont désormais à la recherche de 21 personnes encore sous les décombres. Après le drame qui a transformé Beyrouth en ruine, les Libanais demandent des comptes à la classe politique. Vengeance jusqu'à la chute du régime, scandent les manifestants sous la fumée des gaz lacrymogènes en ce moment même à Beyrouth. Des milliers de manifestants qui ont été stoppés par la police alors qu'ils tentaient d'avancer vers le Parlement. Et l'entraide des pays s'organise. Une visioconférence des donateurs en soutien au Liban aura lieu demain à 14h. Réunion co-organisée par l'ONU et la France. Les États-Unis participeront à cette conférence. Tout le monde veut aider, tweetait ce matin le président américain Donald Trump. En Italie, plus besoin d'hospitalisation pour avoir recours à la pilule abortive. Information révélée aujourd'hui par le quotidien La Repubblica. Le ministre de la Santé italien a accordé un entretien exclusif au journal. Jusqu'à aujourd'hui, 3 jours d'hospitalisation étaient nécessaires. Les partis d'extrême droite jugent cette décision absurde et dangereuse. Les partis de gauche saluent une décision juste. Cette décision permet de mettre fin aux différentes lois entre chaque région. Un mort dans le crash d'un Canadair portugais. L'avion bombardier d'eau s'est écrasé ce matin en Espagne. 2 pilotes luttaient contre les flammes au nord du pays. L'un, âgé de 65 ans, est mort sur place après l'arrivée des secours. L'autre est grièvement blessé. Le Portugais de 39 ans a été transporté aux urgences. Une première dans l'histoire de la Moto Grand Prix. 2 Français en pole position du Grand Prix de République tchèque. Les Français Johan Zarco et Fabien Quartararo s'élanceront donc aux 2 premières places demain. Et Marco Verratti forfait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Verratti s'est blessé mardi à l'entraînement. Le milieu de terrain du PSG sera donc absent contre l'Atalanta Bergame mercredi. Les Parisiens devront se débrouiller sans l'international italien. Coup d'envoi prévu à 21h au stade Lalous à Lisbonne. Et la foire au jambon à Bayonne annulée, une première en plus de 500 ans au Pays Basque, en cause de la pandémie de coronavirus. Décision prise par le maire de Bayonne. Les amoureux du jambon basque devaient se rassembler en avril. La foire a été reportée à octobre, puis finalement abandonnée. Chaque année, plus de 200 000 personnes se rejoignent en 4 jours.
Merci Yasmine Akatou. Prochain rendez-vous avec l'info à 18h sur Europe 1. On retrouvera Marion Calais pour le grand journal du soir. Il est maintenant 17h03. Allez, on file en Suisse avec Philippe Googler.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
Et si on partait sur Europe 1, deuxième heure, c'est l'été. C'est le moment de lâcher prise. Tous les après-midi sur Europe 1, je vous emmène aux 4 coins de la planète, juste pour rêver. Décollage maintenant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays où les paysages ne sont pas magnifiques. Ils ne sont pas magnifiques, ils sont presque parfaits. Tout est beau, soigné, des paysages alpestres, comme dans Heidi, vous savez, avec des montagnes pures, des glaciers dans le lointain, le son des cloches des vaches, de l'herbe verte lumineuse, et puis cette nature entretenue amoureusement par les agriculteurs. C'est une sorte d'immense jardin magnifique. Je vous emmène en Suisse. Alors en Suisse, on aime les traditions et vous allez voir, ça va très loin. Ça se passe à Lausanne. On m'avait conseillé d'aller me promener en soirée, même s'il faisait un peu froid, sur les hauteurs de la ville, autour de la cathédrale. drôle de rendez-vous parce que j'y vais un peu avant 22h, on est en plein hiver, l'édifice est magnifique, mais le parvis est désert et puis il fait vraiment pas chaud. Donc je suis là tout seul en doudoune avec juste la lumière jaune des réverbères. C'est un peu austère. Et puis tout à coup, à 22h pile, j'entends une voix. Une voix qui vient du sommet du clocher, une voix puissante, posée, qui énonce lentement
« C'est le guet. Il a sonné 10. Il a sonné 10. »
C'est quand même un peu surprenant d'entendre ça dans une ville. Et j'aperçois tout en haut un homme avec un grand chapeau et donc je l'interpelle et je lui dis « Bonjour !» Et donc je lui demande de me répéter ce qu'il vient de dire parce que j'ai pas bien compris le sens, la signification de tout ça. Et donc il me crie alors qu'il est le guet officiel de Lausanne et qui vient de donner l'heure. Il a sonné 10, ça signifie il est 10 heures. Donc évidemment, je vais le rejoindre, je rentre dans la cathédrale par une petite porte cachée sur le côté, comme un passage secret, et puis je commence à grimper, grimper, grimper encore. Il y a 224 marches de pierre à gravir, et tout en haut, je tombe sur un grand homme, vêtu d'une grande cape noire et d'un chapeau, un look, disons, Moyen-Âge. Et je suis un peu impressionné comme ça. Et puis, je dis, mais alors, vous donnez l'heure tous les soirs ou c'est un spectacle? Et le gars est lui-même un peu surpris par ma question. Il me dit, mais non, mais pas du tout. Ici, on est à Lausanne et c'est une tradition historique. Le gars crie l'heure depuis plus de 600 ans sans aucune interruption. Je suis le gars de la tour de Lausanne. Là, j'ai l'impression d'être dans Notre-Dame de Paris, vous voyez, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais avec vue sur la Suisse. Et je lui demande donc quand même, c'est une drôle d'idée de devoir crier l'heure aujourd'hui. Et là, il me répond que c'est une tradition qui date du Moyen-Âge et qu'il pensait qu'à l'époque, les gens ne savaient pas forcément compter les coups de la cloche et il fallait donner l'heure. Et puis le gars était aussi un observateur de ce qui se passait dans la ville et qu'il pouvait aussi évidemment donner l'alarme. Donc on décide d'attendre ensemble les 23 heures dans sa loge. Il y a une petite loge assez bien chauffée d'ailleurs, tout en bois à proximité d'une énorme cloche. Une loge qui est comme un nid douillet niché au sommet de la grande tour froide. Et là je me dis que pour être gai de Lausanne, il faut quand même être en solitaire. À 23 heures précises, la structure bois du beffroi qui vibre et le battant de la cloche frappe. Un son puissant se répand dans toute la loge. Je comprends pourquoi les gays de Lausanne ont la réputation d'être sourds. C'est la cloche qui vient de sonner. Et le gay se lève et il m'emmène dire l'heure. Le rituel veut que le gay laisse sonner la cloche, puis il va annoncer l'heure aux quatre points cardinaux. Donc on va se poster et il me propose de crier l'heure avec lui. Et on y va ensemble. C'est le gay. Il a sonné 11. Il a sonné 11. Et bien, je vous assure que la sensation est très particulière, parce que vous avez l'impression de crier, c'est vrai, tout seul au-dessus d'une grande place vide, mais aussi de savoir que quelqu'un, quelque part, vous entend, et que quelqu'un, quelque part, nous rassurons par notre présence, par la seule perpétuation de cette longue tradition. Et le gay me dit, vous savez, à Lausanne, les gens sont très attachés au gay. Si jamais je ne criais pas, eh bien, ils appelleraient la police, très inquiets. Car ici, il y a toujours quelqu'un qui écoute.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Encore plus de Suisse, dans quelques instants, sur Europe 1.
Europe 1. 16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes en Suisse cet après-midi. Tous les jours, un nouveau pays que nous découvrons ensemble sur Europe 1. Et nous sommes dans ce pays incroyable, une sorte d'île au milieu de l'Europe. Un petit pays, mais où on parle quatre langues différentes. Et où il y a des dizaines de cantons qui sont autant d'États dans l'État. C'est un pays absolument incroyable, la Suisse. Et nous avons en ligne Joël Dicker, écrivain suisse né à Genève, auteur du célèbre roman La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est paru en 2012 et qui a rencontré un succès incroyable. Je crois que vous avez vendu 5 millions d'exemplaires dans le monde, Joël Dicker. Bonjour.
Bonjour Philippe, et merci pour votre récit qui m'a beaucoup touché.
Ah oui ?
Sur Lausanne et le guet de Lausanne, c'est tout à fait ça.
Ouais. Mais vous savez que j'adore les Suisses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une tendresse pour les Suisses. On va en parler ensemble beaucoup. Et déjà, ce goût assez incroyable du respect de l'autre. C'est-à-dire que, moi, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la discrétion suisse, ce n'est pas seulement cacher des trucs, c'est d'abord ne pas gêner l'autre. Ce qui donne cet aspect comme ça très, très mesuré. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est tout à fait vrai. La Suisse, c'est un peu vivre et laisser vivre, avec ce respect de l'autre, avec cette envie de ne pas déranger, avec cette discrétion, comme vous dites, c'est le bon mot, parce que ce n'est pas tellement le secret de soi, c'est pas envie de déranger, pas envie de se montrer trop, pas envie d'être dérangé aussi, parce que en général, ça va dans les deux sens. Quand vous vous montrez, on a envie de vous voir. Et donc, comme on n'a pas envie d'être vu, on n'a pas envie de se montrer. Et donc, chacun fait ses petites affaires dans son coin et on est très content comme ça. Et c'est vraiment très fort. Moi, je le vois quand je reviens en Suisse, où je vis, hein, mais je voyage pas mal pour mes livres. Et je dois dire qu'à chaque fois que je reviens en Suisse, il y a cette espèce de tranquillité, ce calme qui fait un bien fou.
Ouais. Alors, cette fameuse propreté suisse qui est légendaire, moi j'ai une explication, mais vous allez me dire si c'est la bonne. C'est que j'ai aussi l'impression que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ça ne peut pas être sale parce que ça gênerait l'œil du voisin.
Oui, c'est vrai. Alors, d'une part, c'est pas bien de le faire, donc on le fait pas. Le Suisse a ce côté quand même très à cheval sur ce qui est juste, sur ce qui est bien, sur le bon sens. Et la propreté, c'est aussi cette idée, donc, de par rapport à ça, mais aussi de prendre soin de là où on vit. Parce qu'au fond, ces rues qu'on salit, c'est les rues dans lesquelles on marche. Et donc, le Suisse a à cœur de garder une ville propre. Alors, il paraît que la ville est quand même, que les villes en Suisse sont un peu moins propres que ce qu'elles ont été il y a quelques dizaines d'années. Je n'étais pas encore né. Mais ça reste quand même par rapport à d'autres villes très propres. Et on a des lacs qui sont extrêmement propres. Je crois que l'eau du lac Léman et des autres lacs suisses n'ont jamais été aussi propres que maintenant. Et on peut presque boire l'eau tellement elle est propre. Donc voilà, c'est assez incroyable.
Alors, les paysages suisses sont des paysages souvent vraiment de cartes postales. On a l'impression que c'est Heidi parfois. Quel est votre paysage de rêve à vous là-bas en Suisse ?
C'est difficile de vous répondre parce que la Suisse est un pays morcelé qui a des paysages très différents. Vous devez choisir entre le lac. On a des lacs qui sont vraiment extrêmement beaux avec des couleurs, une eau qui est émeraude, vert, très particulière, très belle. Et je dois dire que j'ai un amour pour le lac qui est très grand. Donc j'aurais envie de vous dire le lac. Mais en même temps, les montagnes sont extraordinaires. On a des Alpes, les Alpes suisses sont d'une beauté absolument incroyable. Donc si je devais n'en choisir qu'un, je prendrais un mélange des deux. Si vous êtes dans la région du Lavaux, dans le canton de Vaud, qui est d'ailleurs classé au patrimoine de l'UNESCO, vous avez devant vous le lac Léman et les Alpes qui se tiennent derrière, et c'est un paysage absolument extraordinaire.
Ouais. Et moi j'aime bien la région de Gruyère, je ne sais pas pourquoi, je trouve que cette espèce de vert, de village perché sur des montagnes, il y a vraiment un truc magique.
C'est très charmant, c'est vrai, et puis il y a ce côté vert et un peu plat, un peu plus plat que ce qu'on peut voir dans d'autres parties de la Suisse, et on a cette impression d'être bien, c'est facile, c'est calme, et puis il y a cet esprit, hein, Gruyère aussi, avec cette petite ville, avec cette vieille ville qui est toute petite, on en fait le tour en un quart d'heure, et puis les alentours sont très verts, et il y a ce mélange, je pense, entre être quand même un peu perdu et cette tranquillité très agréable, et en même temps le sentiment d'être pas si loin d'une grande ville ou pas si loin du reste. C'est-à-dire que vous êtes en Suisse, vous êtes à Gruyère, et ben vous êtes à 1h30 de route de Genève, des grandes gares, des aéroports. Ouais. Donc vous êtes loin du monde, mais pas coupé du monde. Et je crois que c'est ça qui fait la particularité de la Suisse.
Oui, parce que ce que vous dites, c'est pas valable que pour la Gruyère, c'est un peu valable pour toute la Suisse. Vous êtes en pleine nature et jamais très loin d'une grande ville.
Oui, parce que la Suisse est un tout petit pays, hein, il faut le dire. C'est vraiment, on le traverse d'un point à l'autre dans sa plus grande distance en 4 heures. Ouais. Vous partez de Genève et vous allez dans les Grisons et en 4 heures et demie peut-être au plus, vous êtes passé de la France à l'Autriche. Et donc voilà, c'est petit, mais on est... Voilà, je pense que c'est ça qui me plaît et qui plaît aux gens. C'est qu'on n'est pas à l'autre bout du monde. Et c'est rassurant parce qu'on est quand même, on vit dans une époque où on a envie de voyager, on a envie de voir du monde, on a envie d'être aussi dans des grandes villes. Et il n'y a pas vraiment de grandes villes en Suisse. Et donc cette proximité avec et la nature et les grandes villes est assez agréable.
Merci beaucoup, Joël Dicard. Vous restez avec nous, bien sûr. On va continuer à voyager en Suisse dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes en Suisse jusqu'à 18h sur Europe 1. Alors, vous avez compris qu'on l'a dit et répété que c'est un pays magnifique, pays de paysage de cartes postales, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un pays pour le fromage. Car là-bas, vous savez, vous pouvez vous balader en Gruyère. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher dans le Gruyère, ça veut dire que Gruyère, c'est une région de Suisse. Puis on peut se balader aussi en Emmental. Et puis, c'est vrai. Et puis, on peut se balader en Appenzell.
On fait tout le plateau, là.
On peut faire tout le plateau, c'est vrai. C'est un voyage à se lécher les babines. Et alors, j'ai une info de première importance pour vous. Tenez-vous bien, c'est une certitude séculaire qui va tomber dans quelques instants. Vous imaginez un morceau de gruyère. Imaginez-le visuellement. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un beau morceau de fromage jaune clair avec des trous.
Ouais, jusque-là, oui.
Jusque-là, oui.
Ouais.
Eh ben non. J'ai appris en discutant avec un Suisse de la région de Gruyère, très sympa d'ailleurs, avec une grande barbe, qui m'a dit « Le gruyère n'a pas de trous. »
Ah.
Jamais.
Mais vous cassez un mythe, là.
Ah, mais c'est énorme, je vous l'ai dit. Alors, je lui demande, mais enfin, chez nous, en France, quand on achète du gruyère, ça veut dire qu'on veut du fromage avec des trous. Et il me répond, ben non, c'est une erreur, ça fait des années que les Français doivent s'enlever ça de la tête. Ils confondent le gruyère et l'emmental.
Ouais, c'est ça.
Parce que l'emmental, lui, c'est un fromage à trous. Le gruyère n'a pas de trous. Et ça fait des générations que c'est comme ça, dans la tête des Français. Pour leur enlever ça du cerveau, c'est pas possible. Donc, moi, j'en croyais pas mes oreilles. Mais si on résume l'info, le gruyère qui est fabriqué en région de Gruyère en Suisse n'a pas de trous. L'emmental, qui est un fromage d'origine suisse, lui, il a des trous. Mais là où ça se complique, c'est qu'il existe quand même des gruyères français qui ont des petits trous, des tout petits. Mais celui-là, le gruyère français, il n'a pas l'appellation d'origine protégée. Donc tout ça est très subtil. Donc en gros, en général, quand les Français croient manger du gruyère, ils mangent de l'emmental et ils mettront beaucoup de temps à penser autrement, me dit mon ami suisse. Et il me rajoute, ça, c'est parce que les Français ont toujours beaucoup de retard sur les Suisses.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes en ligne toujours avec Joël Dicker, que je ne présente pas, écrivain au succès international, qui vient de faire sortir d'ailleurs un nouveau livre, L'énigme de la chambre 622, disponible aux éditions de Fallois. Le gruyère n'a pas de trou, hein ?
Le gruyère n'a pas de trou, bah évidemment. Le gruyère n'a pas de trou, mais ça, on le sait en Suisse.
De quel œil est-ce que vous voyez ces drôles de voisins français là-bas en Suisse ?
Alors, chaque région de Suisse voit ses voisins d'un œil partagé, parce que vous savez que les Suisses romands, donc qui parlent français, sont très tournés vers la France, les Suisses allemands très tournés vers les Allemands, et les Suisses italiens vers les Italiens. Et du coup, on est toujours partagé, parce que les Suisses romands, les francophones, on a évidemment un sentiment d'infériorité par rapport à la France, parce que la France est évidemment le giron, le grand giron, le grand élément de la francophonie. Et on a parfois l'impression d'être en dessous. Les chaînes françaises télé sont plus importantes, les radios sont plus importantes, les journaux sont plus importants. Donc on a parfois ce sentiment d'être inférieur. Et puis on essaie de se consoler en se disant « mais on est mieux ». Voilà, on est mieux organisé, ça marche mieux, etc. Mais c'est mitigé.
Et pour les autres ?
Et pour les autres, c'est un peu pareil, parce que les Suisses italiens ont cette même raison. Parce que vous savez, il faut bien savoir qu'on parle quatre langues, on a des coutumes, on a des cultures, on a des façons de faire, on a une façon de manger qui est différente partout. Ouais. Mais au final, les Suisses se retrouvent autour d'un sentiment d'appartenance qui n'est pas lié à une langue ou à des choses comme ça, mais à des valeurs.
Ouais.
Le vrai rapprochement entre les Suisses et ce qui cimente la Suisse ensemble, c'est des valeurs de fonctionnement, c'est des valeurs de travail, c'est des valeurs qui font que le pays marche.
Mais alors,
et
justement, comment ça marche? Parce que c'est incroyable ce pays. Un tout petit pays, 4 langues, des dizaines de cantons qui sont comme des petits états à l'intérieur, et ça tient, et c'est calme, et ça inspire la paix. Comment c'est possible?
Mais ça fonctionne parce que ça s'est fait de façon très empirique, en fait, parce que la Suisse est une confédération. Mmh. Donc ça veut dire que ce sont des États à l'origine complètement indépendants les uns des autres qui se sont mis ensemble parce qu'ils ont compris qu'ensemble, ça fonctionnerait mieux. Mmh. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors la Suisse a aussi connu des moments de tension à l'intérieur. Il y a eu des guerres entre la Suisse qui ont finalement permis à la Suisse de se rendre compte, entre les cantons, les protestants et les catholiques, etc. Et finalement, c'est à force de comprendre ce dont chacun avait besoin qu'on a réussi à faire ce pays qui s'est vraiment construit peu à peu, où au fil du temps et des années et des siècles, des cantons se sont agglutinés les uns autour des autres. Ce pays ne s'est pas fait en une seule fois. Mmh. Au fil du temps, les cantons ont rejoint cette confédération qui est partie de 3 petits États qui se sont mis ensemble. Et puis, on est arrivé aujourd'hui à 26 parce que, au fil des années, ces petits micro-États complètement indépendants se disaient, en fait, face aux Italiens qui sont très forts, face aux Français qui sont très forts, j'ai intérêt à rejoindre cette Suisse parce que, en rejoignant cette confédération suisse, je sais que je serai plus fort, je sais que si j'ai besoin d'aide, les autres cantons viendront à mon aide. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Parce qu'en fait, on n'a pas mis tous ces pays ou tous ces cantons et tous ces États ensemble et on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour que ça marche. Mais ça s'est fait peu à peu. On a trouvé un terrain d'accord au fur et à mesure en disant voilà ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne.
Et puis on discute beaucoup en Suisse. C'est un compromis permanent. On vote sans arrêt. Ça discute.
Oui, ça discute beaucoup parce qu'au fond, la Suisse est ce qui est vraiment l'essence de la démocratie. C'est-à-dire que le peuple est le décideur. Il n'y a personne de plus important que le peuple. Même les États-Unis, qui est un pays qui s'est beaucoup inspiré de la Suisse et du fonctionnement de la Suisse, avec des parlements bicaméraux aussi, etc., n'a pas fait une démocratie complètement à l'image de la Suisse, parce que vous avez aux États-Unis un président qui est très puissant et qui a des pouvoirs très importants. En Suisse, il n'y a pas vraiment de président. Il y a un collège de ministres qui sont les dirigeants de la Suisse, et qui sont les dirigeants de la Suisse uniquement pour ce qui concerne les attributions de la Confédération. Et parmi eux, chaque année, un est nommé président simplement de façon honorifique et surtout pour que, quand il y a une visite d'État en Suisse et qu'un président étranger vient en Suisse, il y ait quelqu'un qui soit là pour lui dire bonjour. Mais c'est uniquement ça. Et sinon, c'est le peuple qui vraiment dirige. Le peuple vote à peu près tous les 3 mois. Donc ça veut dire que 4 fois par an, on est appelé aux urnes, on est appelé à voter sur 4, 5, 6 sujets. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on se prononce sur une 20 ou une trentaine de sujets par année.
Ouais. Merci beaucoup Joël Dicker, vous restez avec nous. Dans un petit instant, on retrouve Nathalie Elal et ses histoires insolites suisses, forcément, aujourd'hui. A tout de suite sur Europe 1.
Philippe Googler.
Ça nous fait rire à chaque fois. Hein. J'aime bien ces petits airs suisses. Nous sommes donc en Suisse, comme chaque jour sur Europe 1, une nouvelle destination. Et avec Nathalie Elal, la Suisse, ça vous inspire. Alors, vous m'avez promis un truc assez étonnant, c'est une proximité entre Heidi, qui est quand même sympathique, et oui. Frankenstein.
Oui, alors... Oui. Alors j'ai envie de commencer quand même par la créature la plus sympathique, hein, oui. Si vous voulez bien, Philippe.
Oui.
Alors Heidi, tout le monde connaît l'histoire
tout
de cette, bien sûr, de cette orpheline qui va habiter chez son grand-père dans les alpages. Bon, alors elle s'y acclimate, elle se fait des amis, puis elle doit s'en aller vivre à Francfort sur le Main en Allemagne, ce qui est nettement moins riant parce que sa tante doit l'élever légalement. Enfin, toute une histoire. C'est à la Suissesse Johanna Spyri, hein, qui habitait Zurich, qu'on doit cette histoire traduite en 50 langues, des millions d'exemplaires vendus, adaptés sous forme de documentaires, de films, de dessins animés. Enfin bref, c'est le classique de la littérature enfantine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, cette héroïne, c'est pas du tout la petite fille blonde avec des tresses et le visage de poupée qu'on voit partout.
Ah bon ?
Pas du tout, non. C'est une petite fille brune, aux cheveux crépus, une sauvageonne, en fait, une marginale en quelque sorte.
Mais qui habite en Suisse quand même.
Qui habite en Suisse, mais d'ailleurs, elle s'appelle pas du tout Heidi. Hein. D'abord, elle s'appelle Adélaïde. C'est son vrai prénom.
Ah bon ?
Et il faut bien comprendre que le succès succès du roman qui date de 1880, il est lié à l'ère industrielle, c'est-à-dire qu'il y a des bouleversements sociaux et puis il y a un contraste entre l'univers montagnard qui est sain, qui est naturel, et puis le mode de vie citadin qui est associé, dans le roman en tout cas, à la maladie et à l'indifférence coupable des autres.
Ah bon ?
Oui, absolument.
Mais quel rapport avec Frankenstein ?
Ben, vous allez voir, c'est encore une créature issue de l'imagination féminine. Alors, Mary Shelley, c'est en auteur, c'est une Anglaise. Elle est toute jeune et en 1816, elle passe un été à Coligny, près de Genève. Et en 3 jours, oui, vous avez bien entendu, ça doit faire rêver même Joël Dicker, en 3 jours, elle écrit la première ébauche du roman. Alors, ils sont plusieurs, hein. Il y a Lord Byron qui est là, il y a son fiancé qui est là. Et puis, ils s'ennuient, donc il faut écrire. Enfin, Lord Byron propose que chacun écrive une nouvelle pour distraire les autres, mais une nouvelle effrayante. Donc, elle a cette idée et vous allez voir que la Suisse va jouer un rôle essentiel parce que le créateur du monstre qui s'appelle Victor Frankenstein, c'est un professeur de médecine de l'université de Genève dans le roman. Il y a aussi, curieusement, des références à Jean-Jacques Rousseau, à l'amour de la nature, donc d'où le parallèle aussi avec Heidi. C'est un roman fantastique, mais aussi un roman, c'est le cas de le dire, très romantique, qui parle aussi, d'une certaine façon, du problème de l'intégration parce que la créature... C'est l'incarnation du migrant qui est rejeté de tous.
Ah oui ?
Et d'ailleurs, oui, c'est dans la beauté des Alpes que le monstre va trouver la paix à l'écart des hommes dans les glaces de Chamonix.
Ah bon, et donc, quelle histoire.
Je vous sens complètement soufflé là.
Oui. Joël Dicker, ils vous ont inspiré ces personnages, Frankenstein, Heidi, en tant qu'écrivain ?
Non, mais c'est clair, pas forcément. Mais non, mais par contre, Mary Shelley a écrit son livre dans une maison qui domine le lac Léman et qui a une vue absolument extraordinaire. Et il y a aujourd'hui un petit pré et il y a des bancs et les amoureux vont là pour voir le lac. C'est très beau. Et je dois dire qu'effectivement, quand j'y passe, et il y a la maison dans laquelle elle était il y a 200 ans. Et je me dis, ça devait être quand même un endroit très inspirant. Donc, ouais, ça me donnerait assez envie de pouvoir être là-dedans pour écrire.
Et quand vous étiez enfant, vous alliez dans les grisons, dans les montagnes de Heidi ?
Oui, absolument. Alors, on allait avec ma famille, on allait à Flims, qui est dans les Grisons. Donc, c'est encore une autre partie de la Suisse. C'est là où on parle le romanche, entre autres. Ouais. Donc, c'est la quatrième langue. Et les Grisons, donc, c'est l'Engadine, c'est à la frontière avec l'Autriche et l'Italie. Et c'est une région très différente du reste de la Suisse, parce que le reste de la Suisse se compose soit du plateau, donc c'est plutôt plat comme on l'entend, soit des Alpes, et puis il y a les Grisons, c'est l'Engadine, c'est encore autre chose, c'est une géologie, une géographie un peu différente, et c'est très très beau. C'est très beau, et comme c'est à 4 heures de route de Genève, ce qui paraît être vraiment pour nous Suisses des heures absolument incroyables de route, on a l'impression quand on est là d'être vraiment très 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 loin.
Et c'est vraiment comme dans Heidi, comme paysage ?
Et c'est, alors je suis pas sûr que Heidi soit basé sur les Grisons, ou peut-être oui, alors là j'ai un doute,
si,
mais en tout cas c'est effectivement... Si
Mayenfeld,
ah voilà, pardon,
moi.
Alors pardon, vous voyez, je suis un mauvais Suisse.
Le canton des Grisons,
mais alors Mayenfeld. Oui, c'est vraiment une montagne très particulière, hein. C'est une région très très belle, et il y a dans les Grisons aussi la petite ville de Sils Maria, qui a aussi vu des grands auteurs venir et écrire.
Très bien. Merci beaucoup Joël Dicker de nous avoir raconté votre Suisse, c'était passionnant. Je rappelle que votre dernier livre, L'énigme de la chambre 622, est disponible aux éditions de Fallois. Et je vous souhaite longue vie en Suisse, vous avez de la chance d'habiter dans ce pays, je l'adore.
Merci, merci pour votre invitation, vive la France et vive la Suisse.
Merci beaucoup, au revoir, à suivre sur Europe 1, La Cuisine avec Emmanuel Jarry et bien sûr toute la bande de Joyeux Voyageurs. À tout de suite. Et si on partait sur Europe 1 tout l'été, chaque jour, une destination différente, même deux destinations, une en France, une au bout du monde, une en France, une dans un pays incroyable. Tous les jours, on se promène. Nous sommes en Suisse aujourd'hui, juste pour le plaisir de vagabonder un peu. Alors, Emmanuel Jarry,
oui.
Quand on pense à la gastronomie en Suisse, évidemment, on pense à la fondue, au chocolat, mais il y a quand même autre chose.
Bah oui, parce que comme on l'a beaucoup évoqué avec Joël Dicker, c'est quand même un pays qui n'est pas très grand par sa taille, mais qui a une grande diversité de cultures. Ouais. Là, c'est vrai que pour la cuisine, c'est assez sidérant, parce qu'il y a des influences autrichiennes, allemandes, françaises, bien sûr italiennes. Dans le sud de la Suisse, le canton du Tessin, on a une forte influence qui vient du Piémont, de la Lombardie, du Trentin. Donc on mange de la polenta, du minestrone, c'est la soupe de légumes ou haricots. On mange aussi du risotto aux champignons. Et puis la cuisine suisse, c'est aussi les rösti.
Ah, j'adore les rösti.
Ah, voilà, ah, ces oui, galettes c'est bon, de pommes ça. De terre râpées qui sont grillées à la poêle.
Avec une bonne saucisse.
Ah, voilà, avec de la charcuterie, avec du lard, avec des oignons. Mais ça, c'est dans le canton, enfin, dans la ville de Berne, mais aussi de l'émincé de veau ailleurs, à Zurich, je crois. Donc, en plus, il y a des variantes d'une ville à l'autre. Le plat bernois, on appelle ça, il y a un plat qui s'appelle le plat bernois. La langue de bœuf fumée avec du lard, d'autres morceaux de porc avec de la choucroute. Donc, vous voyez, on est quand même loin du risotto du Tessin. Mmh. Et puis, évidemment, il y a côté suisse romande, la croûte au fromage. Donc ça, c'est du pain qui est arrosé avec du vin blanc recouvert de fromage et gratiné. Donc on est proche du croque-monsieur. Hein. On peut rajouter un œuf ou du jambon. Et évidemment, je suis obligée de parler de la fondue moitié-moitié qui vient du canton de Fribourg. Donc il y a deux sortes de fromages différents. Très important, on m'a dit là-bas que la fondue ne doit jamais faire de fil.
Ah bah non, c'est le minimum.
Ah bon ?
Bah, si une fondue fait des fils, c'est que vous êtes vraiment très très nul en fondue.
Ah mais oui. Et ben voilà. Moi je l'ai appris là-bas. Oui. Non, c'est ça. Et alors en fait, c'est un mélange crémeux qui doit être assez homogène.
Oui.
On a la fondue de Suisse centrale. C'est un tiers de gruyère, un tiers d'emmental, un tiers de sbrinz. Je sais pas comment on prononce sbrinz, le fromage. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de fromages en Suisse, donc on a le choix. Il y a 800 variétés.
800, c'est énorme.
Ouais. Oui, c'est énorme, mais en France, juste au passage comme ça, parce que Cocorico, il y en a 2000. Enfin, c'est déjà très très bien, 800 fromages.
Bah, comparé à la population...
Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Et bon, alors surtout, vous l'avez dit, ils ont le fameux gruyère. Oui. Alors ça, c'est vraiment un produit de terroir...
Qui n'a pas de trou.
Qui n'a pas de trou, bien sûr. Je ne sais plus quel écrivain disait « Que reste-t-il du trou lorsque le gruyère a disparu ?» Il devait être français, puisque... Et donc...
Que reste-t-il du trou quand le gruyère a disparu ?
Parce que
le
temps que
c'est compliqué comme question. Hein.
C'était du mou. En tout cas, il devait être français, non pas suisse, pour l'appeler. Enfin, penser que le gruyère avait des trous. Donc voilà, le gruyère, c'est quand même une géographie, un climat, des pratiques bien précises. Et par exemple, il doit être affiné sur des planches d'épicéa. Et c'est un produit qui est tellement qualitatif que les Suisses n'achètent jamais de gruyère bio. Il est réservé à l'export, en général à l'Allemagne, parce que ce que m'ont dit les Suisses, c'est que ça serait une honte d'acheter du gruyère bio, tant par nature, il est de qualité ce fromage.
Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne sert à rien d'acheter du gruyère bio, c'est ça
voilà,
que vous voulez dire ?
Voilà, ça ne sert à rien. Il est aussi bon quand il n'est pas bio. Donc,
il est naturellement bio.
Il est naturellement bio, naturellement, parce qu'on pense toujours que les produits bio sont de meilleure qualité. Parce qu'il y aurait tout un débat. Mais alors, voilà, il y a aussi... Le gruyère est toujours de qualité, notamment le gruyère d'Alpage, qui est assez rare, exceptionnel. Il n'y a plus qu'une cinquantaine de fabricants. Moi, je suis partie il y a quelques années dans les Alpages du côté de Gruyère. Alors, la ville s'écrit avec un S, hein,
ouais.
Et le fromage sans S. Pour assister à la fabrication de ce fromage, chez un producteur, Jacques Muris, je donne son nom juste parce que je sais qu'aujourd'hui, il accueille des visiteurs. Donc, si les auditeurs veulent se rendre en Suisse et aller lui rendre visite, c'est possible. Et il possède 3 chalets, un à 1050 mètres, un à 1200 mètres et un à 1500 mètres. Et en fait,
heureusement
avec...
qu'il n'en a pas 15, parce que...
Ça se fait jusqu'au
il monte progressivement comme ça en suivant, c'est hyper astucieux, l'apparition de l'herbe. Donc il monte voilà, au fur et à mesure. Et puis après, au moment de la désalpe, à l'automne, bah, il redescend et il reprofite de la deuxième herbe. Donc là, le lèche dans ses chalets est cuit dans un chaudron en cuivre, chauffé au feu de bois. Et alors c'est vraiment un voyage à la fois dans le temps et évidemment dans la montagne. Et alors il fabrique aussi deux autres produits du beurre de très bonne qualité et de la crème double.
La crème double,
oui.
C'est un truc pour le régime, ça.
C'est ça. Alors, en fait, pour avoir le droit à la mention crème double, il doit y avoir au moins 45% de matière grasse.
Ah oui, quand même. Ouais.
Voilà, c'est un produit qui est fabriqué, évidemment, avec le lait qu'on laisse reposer. La crème monte à la surface et on la prélève. Alors ça, c'était la méthode ancienne. Aujourd'hui, on centrifuge, mais voilà, elle est toujours une crème bien épaisse, onctueuse, dense. Et on la dépose copieusement sur les meringues, qui, elles, sont très légères, qui s'effritent quand on croque dedans. Alors là, il y a un mélange incroyable entre le sucre et la douceur de la crème, qui a évidemment un petit peu aigrelette comme le sont les bonnes crèmes, entre l'onctuosité de la crème et le craquant de la meringue. Ça, c'est vraiment un dessert exceptionnel. Moi, je ne suis pas trop dessert, je suis plutôt fromage, mais là, je tuerais père et mère pour une meringue à crème double.
Ah bah surtout à 17h42, on a super faim.
Je voudrais dire un mot du chocolat, si vous me le permettez, Emmanuel.
Bien sûr, parce que j'aime le chocolat.
J'ai peut-être créé un incident diplomatique. Je ne sais pas si vous le savez, sans la Belgique et l'Italie, il n'y aurait peut-être pas de chocolat en Suisse.
Ah bon ?
Ben oui, parce qu'en fait, c'est un bourgmestre qui s'appelle Heinrich Escher qui découvre en 1697, lors de son passage en Belgique, le chocolat. Il va l'introduire en Suisse. Bon, à cause des autorités religieuses, parce que le chocolat a une sale réputation, hein, il est aphrodisiaque, paraît-il, donc ça va être censuré. Et puis ensuite, ce sont des commerçants italiens qui se déplacent sur les marchés, et plus particulièrement dans les foires, et qui fabriquent des boudins de pâte de cacao qui servent à confectionner la fameuse boisson chocolatée, qui viennent en Suisse. Alors, ils ont aussi, évidemment, ils sont des confiseurs réputés, hein, ils travaillent les bonbons, les confitures, les conserves de rose, la bergamote. Évidemment, à leur contact, eh bien, les Suisses vont apprendre à aimer le chocolat. Ils vont tellement bien l'aimer qu'après, ils vont ouvrir des fabriques.
Formidable, je ne savais pas tout ça.
Mais je vous en prie.
Elle vous apprend des trucs.
Ouais, tout à fait.
Merci Emmanuel pour ces infos. Et Nathalie, vous êtes formidable. Dans un petit instant sur Europe 1, les bons plans pour découvrir la Suisse. Les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
On est bien en Suisse, hein, on y resterait bien encore un peu. Alors, bon, bah, la Suisse, c'est un petit pays, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. C'est montagneux, donc ça peut être long pour accéder à un point à un autre. Donc, comment on aborde la Suisse, Jean-Bernard Carrier ?
Bon, moi, il y a un mode de déplacement que je recommande et qui va vous faire plaisir, Philippe. Vous le connaissez si bien, ce
le
mode.
Train.
Ah, mais oui, mais forcément. Oui.
Mais c'est un des réseaux ferroviaires les plus denses du monde.
Exactement. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a un très bon réseau routier, mais ça serait dommage de ne pas prendre le train en Suisse pour la simple et bonne raison que les lignes ferroviaires suisses traversent les paysages les plus somptueux du pays et que le réseau, vous venez de le dire, est vraiment excellent.
Excellent. Il y a des trains qui grimpent dans des montagnes. Alors, il y a des trucs incroyables.
Exactement. Alors, les lignes de train, c'est pas simplement un moyen de déplacement, c'est vraiment une attraction touristique à part entière. Donc c'est vraiment quelque chose à prévoir dans son voyage. Et en plus, il y a même un pass qui s'appelle le Swiss Pass qui vous permet d'emprunter tous les trains pour un tarif tout à fait raisonnable. Alors, il y a deux trajets que moi j'ai gardés. Je ne sais pas si vous les connaissez, Philippe. Le premier que je trouve exceptionnel, je l'ai testé, celui-là. Ça s'appelle le Glacier Express.
Excellent, excellent choix,
ouais,
monsieur.
Il est top celui-là. Un train mythique qui relie les deux stations de sport d'hiver les plus chics de Suisse, Zermatt et bien sûr Saint-Moritz, au cœur des Alpes suisses. C'est l'un des plus beaux itinéraires d'Europe avec des tronçons qui sont réellement spectaculaires. C'est 290 km. Je vais me dire, c'est pas beaucoup, mais ça se fait en 8 heures si on reste sur l'intégralité
Bah oui, ça tourne. Hein.
Alors attention les chiffres. 191 tunnels quand même, hein, pour vous dire que c'est vraiment un défi technologique déjà dans sa construction. Les wagons sont panoramiques, y compris le toit, ce qui vous permet d'avoir des vues incomparables sur les montagnes, les parois, les lacs, les ravins et les vaches, évidemment.
Ouais, mais alors, quand on dit panoramique, c'est vraiment, vous avez l'impression d'être dans une bulle de verre.
C'est une bulle de verre, voilà.
Vous êtes comme dans une bulle de verre qui se déplace dans des paysages somptueux.
C'est extraordinaire. C'est phénoménal. Ouais. Alors, une petite astuce quand même, réservez un siège côté sud pour avoir les plus belles vues de ces bulles. Un petit inconvénient quand même de ce train-là, c'est que pour les photographes dont je fais partie, les fenêtres ne s'ouvrent pas, donc c'est un petit peu embêtant. Donc l'astuce, c'est de prendre sur cette même ligne, quand on est photographe, un express régional qui fait exactement le même parcours. Et là, on peut ouvrir la fenêtre et faire plein de photos
et puis,
ou de la vidéo.
Tout petit inconvénient, parce qu'il faut bien critiquer un peu, on est français. Hein, c'est que comme c'est une bulle de verre, quand il fait plein soleil tout le temps, vous êtes sous le soleil à fond.
Il y a une
clim, donc ça va. Mais malgré tout, d'être à fond comme ça dans le soleil en permanence, ça peut être un peu fatigant. C'est vraiment histoire de critiquer.
Mais c'était histoire de critiquer un petit peu les
chichouilles. Et puis, il y a un autre truc très rigolo, c'est que comme il y a des pentes, il y a des verres à vin qui ont le pied penché. Parce que comme ça,
c'est génial.
Est-ce comme ça le verre reste droit ?
Mais quand vous buvez trop, c'est penché aussi.
Quel est l'autre trajet en train que vous aimez ?
Alors là,
Jean-Bernard,
je me tourne vers Emmanuel. Oui. Ça s'appelle le train du chocolat. Figurez-vous, ça existe. C'est un train gourmand qui relie Montreux, la très belle ville chic sur les bords du Léman, à la chocolaterie Caillé qui appartient à Nestlé. Alors,
mais on mange pendant le trajet plein de chocolat ?
C'est pas tout à fait. Il y a des petites dégustations qui sont prévues, mais en fait, on circule dans des wagons très classe, des wagons Pullman de 1915. Et on arrive à la chocolaterie Caillé. Et là, c'est là qu'il y a des visites et des dégustations qui sont prévues pour les visiteurs. Voilà, c'est vraiment un trajet à recommander pour les accros au cacao et les amoureux du rail. Alors, ça sera pour l'année prochaine parce que cette ligne-là, elle n'est pas prévue cette année à cause de cette crise sanitaire.
D'accord. Alors, on a parlé énormément des montagnes. On a peu parlé des lacs.
Eh oui,
il y en a beaucoup en Suisse.
Ouais,
et puis, il y a le plus célèbre, il y a le lac Léman.
Bah, c'est pas celui-là que j'ai envie de mettre en avant. Bah, ça vous étonne pas. J'ai besoin d'une pépite, vous savez. Il faut un truc un peu bleu. Voilà. Alors, j'en ai trouvé un, ça s'appelle le lac bleu d'Arola. J'adore celui-là parce qu'il est à 2100 mètres d'altitude, près de la frontière avec l'Italie. Un cadre, vous avez parlé d'un cadre à la Heidi, bah, c'est à peu près ça. Au milieu des mélèzes, il y a des marmottes, des chamois. Mais son véritable attrait, c'est pas la faune, c'est la transparence et la couleur. L'eau, elle est cristalline. On se croirait vraiment dans un lagon polynésien. Elle est cristalline, transparente. On voit parfois même les truites au fond. Et il y a vraiment un bleu turquoise qui est exceptionnel. C'est dû à un phénomène chimique. L'eau, elle vient d'une source d'une pureté exceptionnelle en amont. Elle ruisselle sur de l'argile et se charge d'une algue microscopique qui lui donne ses reflets bleutés. Ah ouais. C'est la petite Polynésie de la Suisse. Voilà, je l'ai placée, celle-là.
Bon, l'eau n'est pas tout à fait à la même température qu'en Polynésie.
Voilà, voilà, elle fait 4-5 degrés, donc c'est vraiment pour le visuel.
On peut pêcher les truites
Non, elles ne sont pas pêchables, justement. Ah. Ouais, tout à fait.
Ah, elles sont protégées
Elles sont protégées, tout à fait. Petite balade pour y aller, 45 minutes, donc ça permet d'éviter qu'il y ait trop de foule au bord du lac.
D'accord. On parle moins généralement du canton de Neuchâtel, au nord de la Suisse, plus côté Jura.
Mais c'est près de chez vous, ça. C'est près de la Franche-Comté, mon cher Philippe. Bah oui, alors il y a un endroit qui est exceptionnel là aussi. Ça s'appelle le Creux du Vent. C'est pas une montagne, mais c'est une impressionnante paroi naturelle. Vous voyez le Grand Canyon aux États-Unis ? Eh ben, c'est l'équivalent version suisse en beaucoup plus petit.
Ah, je croyais que vous alliez dire en mieux.
En plus petit.
Ça aurait été plus juste.
Donc en fait, c'est une immense vallée qui fait 1 km de long, des parois de 400 mètres de verticale. C'est vraiment impressionnant. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est quand on arrive sur le parking, vous laissez votre voiture et on marche 300 mètres sur un plateau. On se doute pas du tout du spectacle et on arrive sur le belvédère qui est aménagé. Et là, on découvre ce trou, vraiment ce gouffre sous vos pieds. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a un effet visuel garanti. J'adore cette sensation d'arriver sur ce creux du van.
Et alors, côté ville ?
Ah, côté ville. On aime bien, dans cette émission, les villes sous-estimées ou les pays sous-estimés. Ben, il y en a une. Dans cette famille-là, je voudrais Zurich. Alors, c'est vrai que l'image de Zurich n'est pas très glamour.
Coffre-fort,
ville de banquiers, ville institutionnelle. Bon... Alors moi j'ai trouvé autre chose, c'est Zurich Ouest. C'est là que le côté arty, le côté branché de toute la Suisse s'exprime. C'est une ville en plein, le quartier Ouest est en pleine métamorphose. En fait, c'est d'anciens quartiers industriels qui sont en pleine réhabilitation. Ouais. Ça tranche complètement avec le reste de la Suisse et le reste de la ville. Quartier alternatif, bien sûr. Petite balade pédestre. On s'imprègne de cette ambiance décalée, insolite. Et puis on commence par la Freitag Tower. Un truc complètement bizarre. On se dit, mais c'est pas des Suisses qui ont fait ça, c'est pas possible qu'ils sont si ordonnés, si maniaques. C'est des conteneurs, 19 conteneurs, des conteneurs de port, hein, portuaire, qui sont empilés. Ça fait 26 mètres de hauteur. Vous avez une super vue quand vous allez là-bas. Et dans ces conteneurs, il y a une boutique qui s'appelle Freitag. C'est très connu en Suisse. Ce sont des sacs qui sont réalisés à partir de matériaux recyclés, des bâches de camions. Ils sont recyclés, donc tout est fait sur place et ça vaut très très cher. Donc c'est vraiment un accessoire.
Ah ouais.
Shopping.
C'est chic alors.
C'est chic, voilà, c'est devenu chic et branché. La marque Freitag, c'est pas pour les mettre en avant, mais c'est vraiment un travail très très impressionnant et ça se fait dans ce quartier alternatif. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Bernard pour toutes ces infos. Vous êtes vraiment l'homme à emmener dans son sac en fait. Parce que
je pèse un peu trop lourd.
Vous avez les clés du monde entier. Merci beaucoup les amis, merci à vous de nous avoir suivis dans ce grand voyage. Demain on repart ensemble. À demain.